tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron a ouvert tout à l'heure le Conseil des ministres en appelant le gouvernement remanié la veille à, je cite, « ne pas manquer de constance et de cohérence ». En attendant, et depuis hier, c'est La République En Marche qui semble manquer de souffle. Elle, après avoir perdu le même jour son patron et son porte-parole, analyse à suivre avec Antoine Geoffin.
Le parquet de Paris a annoncé ce matin avoir ouvert contre Jean-Luc Mélenchon une procédure pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Oui, la procédure porte aussi sur des faits présumés de menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et sur le lendemain d'une perquisition houleuse au siège de la France Insoumise. Explication dans le journal d'Antoine Marette.
Dans votre édition également, Thomas Cluzel appelle à peine 7 mois après son élection comme secrétaire général. Pascal Pavageau a annoncé ce matin sa démission de la tête de Force Ouvrière.
Une démission qui fait suite aux révélations du Canard Enchaîné sur un fichier controversé sur les dirigeants du 3e syndicat français. Nous serons en ligne avec Dominique Andolfato, professeur en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste du Parti communiste et des syndicats.
À l'étranger, à présent, la première ministre britannique Theresa May retrouve ce soir ses collègues européens.
Oui, un sommet où, sauf surprise, Londres et l'UE en seront réduits à constater une fois de plus leur divergence persistante sur le Brexit. 2 semaines après la disparition de Jamal Khashoggi, les indices et les preuves à charge contre le régime saoudien se multiplient. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est attendu aujourd'hui en Turquie. Et puis, c'est à huis clos que débute aujourd'hui à Moscou le procès du metteur en scène Kirill Serebrennikov, assigné à résidence. Celui qui est considéré comme un créateur avant-gardiste talentueux en Russie doit répondre d'une accusation pour détournement de subventions publiques. Enfin, 3 ans après son élection, le Premier ministre canadien Justin Trudeau réalise aujourd'hui l'un de ses engagements de campagne les plus symboliques, la légalisation du cannabis récréatif. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À quoi ça tient la valeur des choses? Que valent les valeurs de l'art contemporain? Contemporain à l'économie, jusqu'à la politique, on en parle, on s'en entretient avec notre invité. C'est l'économiste philosophe Frédéric Lordon qui nous rejoindra à partir de 12h55 à l'occasion de la parution de son nouvel essai. Il s'appelle « La condition anarchique, affects et institutions de la valeur ». Il paraît au seuil et nous vous dirons tout dans une 20aine de minutes.
Merci, à tout à l'heure. Qu'il s'agisse de leur future photo de classe sur le perron de l'Elysée ou de leur sortie tout à l'heure du Conseil des ministres, chacune des contorsions des nouveaux membres du gouvernement sera sans doute scrutée à la loupe aujourd'hui. D'autant que la semaine dernière, déjà, la précédente équipe avait semé le trouble lorsque plusieurs ministres avaient chacun à leur tour et de manière énigmatique levé la main vers le ciel. Alors ce matin, c'est davantage le renouvellement de leur démarche qui devrait retenir l'attention afin d'en déterminer essentiellement la force de l'élan. Car s'agissant de la direction, là, les consignes du président Emmanuel Macron ont été hier soir on ne peut plus claires, ni tournant, ni changement de cap. En revanche, reste le risque pour l'exécutif de se retrouver malgré tout et rapidement à bout de souffle. Et pourquoi ? Parce que l'une des conséquences de ce remaniement ministériel hier est d'avoir fait perdre coup sur coup à La République En Marche sa tête et sa voix. Antoine Geoffin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Hier, la formation macroniste a en effet non seulement perdu son patron, Christophe Castaner, parti rejoindre le ministère de l'Intérieur, mais aussi son porte-parole, Gabriel Attal, nommé le même jour secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation. De quoi fragiliser donc la formation présidentielle, notamment dans la perspective des européennes. Et c'est probablement d'ailleurs, Antoine, la raison qui a conduit la jeune formation à accélérer le tempo pour désigner son nouveau patron.
Oui, ces élections, c'est dans 6 mois à peine. Il nous faut donc un chef dès la fin de la semaine. On ne va pas laisser traîner, confie un pont du mouvement. Pas pour autant inquiet, on n'a pas perdu de temps, mais il faut se mettre en ordre de marche. Il faut aller assez vite, abonde un autre député LREM. On a besoin d'un patron. Cela doit se faire avant Noël, dit un autre cadre d'En Marche. Bref, les députés de la majorité sont conscients qu'ils doivent embrayer rapidement pour ne pas laisser de place au doute. Il faut sortir, et assez vite, de la séquence où l'on remanie toutes les semaines, appuie un député du groupe. Cette séquence où les noms n'arrêtent pas de circuler, renchérit un autre. À très court terme donc, un bureau exécutif doit se réunir, a priori ce vendredi, pour désigner une direction provisoire. Le député de Paris, Pierre Persson, 29 ans, a déjà fait savoir qu'il était disponible. Il est jeune, talentueux, dynamique et surtout, il connaît tous les députés et les référents locaux, croit savoir un élu LREM haut placé. C'est un homme du premier jour. Pour l'intérim, c'est la personne qui s'impose pour que le mouvement s'organise. La passation, elle, devrait être officialisée dimanche à Issy-les-Moulineaux lors du rassemblement du Conseil. Le Parlement Rassemblement de la République en marche qui réunit tous les députés du groupe. Une réunion prévue de longue date, c'est un hasard du calendrier. Le délégué général par intérim devra ensuite préparer le prochain scrutin interne qui désignera le patron du mouvement pour 3 ans. 15 jours de délai prévu par les statuts du mouvement. Et pour la tête d'En Marche, plusieurs noms circulent déjà. Stanislas Guérini, le cofondateur du mouvement, dit en privé y réfléchir sérieusement. Paco Rupin, député de Paris, est partant a priori selon son entourage. Tout comme Joachim Sonforget, le député des Français de l'étranger. Un autre nom, celui de Marlène Schiappa, l'actuelle secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. En coulisses, elle est soutenue par des parlementaires et cadres du mouvement. Enfin, un dernier nom évoqué, celui de Stéphane Travert, après son éviction du ministère de l'Agriculture hier. Le député de la Manche pourrait rebondir au sein de LREM.
Merci Antoine Geoffin. Au lendemain des perquisitions menées au siège de la France Insoumise ainsi qu'au domicile de Jean-Luc Mélenchon, le parquet de Paris a décidé aujourd'hui d'ouvrir une enquête pour menace ou acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, mais aussi violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Des faits passibles de 3 ans de prison. Alors hier, Jean-Luc Mélenchon s'était insurgé contre une énorme opération de police politique. Depuis, et dans leur ensemble, les syndicats de police dénoncent l'attitude du leader de la France Insoumise. Seule l'organisation Vigicgt Police prend la défense du député et dénonce, je cite, une utilisation de la justice et de la police nationale à des fins politiques par le pouvoir en place. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Alors ces perquisitions hier étaient menées dans le cadre de 2 enquêtes dont la nature est connue. L'une porte sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens, l'autre sur les comptes de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, la question qui se pose est de savoir si ces perquisitions ont été menées indépendamment ou non du pouvoir en place.
Alors ces perquisitions, une dizaine en tout, ont eu lieu dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires distinctes, vous l'avez dit. L'une porte sur de possibles emplois fictifs de parlementaires européens. Elle a été ouverte à la suite de signalements d'une eurodéputée anciennement FN, Sophie Mantel. L'autre concerne donc les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Elle a été lancée après 2 signalements, l'un de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'autre de la cellule française de renseignement financier TRACFIN. Pas de trace d'une intervention gouvernementale jusqu'ici. C'est après que ça se complique un peu. C'est le parquet qui a déclenché ces 2 enquêtes qui ont conduit à ces perquisitions. Or, selon Jean-Luc Mélenchon, le parquet est aux ordres du gouvernement. Le leader de la France Insoumise s'appuie sur le fait que le procureur de la République est nommé par le gouvernement. Le parquet ne peut donc pas être entièrement indépendant, selon lui. Il peut faire remonter des informations sur les enquêtes en cours à la garde des Sceaux et celle-ci a une influence considérable sur la carrière des procureurs de la République. Sauf que ce que ne précise pas Jean-Luc Mélenchon, c'est que le procureur de la République de Paris actuel, François Molins, n'a pas été nommé par l'actuel gouvernement. Il a été nommé à ce poste sous Nicolas Sarkozy, ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs de faire avancer avec détermination l'enquête sur l'affaire Big Malion au sujet du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. En revanche, le prochain procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a lui bien été choisi par la garde des Sceaux. L'indépendance du parquet reste donc relative en France.
Merci Antoine Marette. Il n'aura pas tenu plus d'une semaine après la révélation la semaine dernière de l'existence d'un fichier sur les principaux cadres de son organisation. Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière, a finalement annoncé sa démission ce matin, juste avant la réunion de la commission exécutive qui devait statuer sur son sort. Dans son courrier, Pascal Pavageau s'excuse de lâcher ainsi les militants. Je sais que pour certains, cela relèvera de la désertion, voire de la trahison, dit-il, avant d'ajouter « J'ai donné mes tripes parce que je suis viscéralement convaincu de ce que je défendais. Cette page de ma vie se ferme dans la douleur, mais je reste fier de rester un militant de base. » Enfin, toujours dans ce courrier, Pascal Pavageau revient longuement sur les conditions de son départ, fustigeant, je cite, « la cabale dont il a fait l'objet ». Alors pour en parler avec nous, Dominique Andolfato, professeur en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste du Parti communiste et surtout des syndicats. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Au-delà des révélations du canard enchaîné, ce départ fait aussi ressortir des questions de positionnement de Force ouvrière, réformiste ou contestataire. Est-ce que c'est aussi cela qui se joue en arrière-plan de ce départ de Pascal Pavageau?
Je n'en suis pas sûr, parce que FO, c'est une organisation qui historiquement est partagée, qui est plurielle. Hein. Il y a cette aile réformiste dure, il y a une aile plus anarchiste, plus trotskiste, et ça c'est un peu structurel. Et je pense que c'est plus, c'est pas tellement la ligne qui est en cause, parce qu'en fait il y avait une relative unanimité sur la ligne. D'ailleurs, Pascal Papageau n'est pas attaqué sur les projets ou ses positionnements qu'il défendait. Je pense que c'est plus une lutte interne, en fait. Lui-même parle de barons ou de chefs de clan qui se sont attaqués à lui. Je pense que c'est plus une affaire de règlement de compte entre dirigeants de FO. Mais la ligne, je pense, et même la dimension politique est extérieure à cette affaire.
Alors comment FO peut sortir aujourd'hui de cette crise ?
Elle est un peu aidée finalement par l'agenda social, parce qu'il y a quand même, il faut qu'elle plonge dans la négociation de pas mal de réformes, notamment celle des retraites qui avait déjà mobilisé Pascal Papageau. Et puis il y a surtout à court terme les élections dans la fonction publique qui sont un enjeu très très important.
Prévu en décembre.
D'ailleurs, c'est ce qui a précipité le départ de Pascal Papageau, parce qu'il faut absolument pas que FO ne loupe cette échéance, parce qu'elle est pour le moment, elle est la première organisation de la fonction publique d'État, et je pense que si elle perdait ce leadership, ou si son audience était fortement écornée, là, la situation serait particulièrement grave.
Est-ce que dans la perspective de ces élections, justement, ce départ pourrait coûter cher à FO ?
Oui, déjà, justement, il faut un peu colmater les brèches. Bon, les élections ont lieu début décembre, donc il y a encore il y a un bon mois et demi avant cette élection, donc on peut, à travers une campagne de terrain, à travers une campagne d'écoute des fonctionnaires, etc., tout n'est pas perdu. Mais je pense que cet échange, justement, est quelque chose qui a conditionné le départ rapide de Pascal Papageau, la réaction de l'organisation qui a mis en avant, je sais pas, des principes d'éthique ou certaines valeurs, etc. Justement, parce qu'il y avait ces élections-là qui sont une échéance très, très, très importante pour l'organisation.
Ce départ est-il de nature à écorner, qui plus est, l'image des syndicats en général, alors que débutent, on le sait, d'importantes négociations sur les retraites, l'assurance chômage notamment ?
Alors, bien sûr, oui, vous avez tout à fait raison. Régulièrement, on a ce genre d'affaires. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ans, l'affaire Le Pen à la tête de la CGT. Il y a parfois des affaires de corruption qui implique certains syndicalistes. Il y a régulièrement des comités d'entreprise qui sont mis en cause. Donc effectivement, cette nouvelle affaire n'est pas pour redorer le blason des syndicats, même si elle ne touche quand même qu'un groupe de personnes, et notamment un secrétaire général. Mais c'est vrai que en France, on a un taux de syndicalisation qui est très faible, l'un des plus faibles des pays occidentaux. Et donc, c'est pas ce genre d'affaire qui va redresser le taux de syndicalisation, alors que la syndicalisation, c'est quelque chose de décisif pour que les syndicats soient vraiment pris au sérieux par tous leurs interlocuteurs.
Merci Dominique Andolfato, professeur en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste du Parti communiste et surtout des syndicats, d'avoir été en direct avec nous.
Midi 42, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Le flegme britannique décidément à l'épreuve du Brexit. L'heure appelle au calme et au sang-froid. Lundi dernier, l'imploration, sinon la prière de la première ministre britannique devant la Chambre des communes n'avait au final suscité guère d'autres réactions que les moqueries de l'assistance, et pour cause. Pour la très grande majorité, il apparaît désormais acquis que la messe est dite. Quand Theresa May dit continuer de croire qu'un accord négocié est réalisable, le président du Conseil européen, Donald Tusk, estime, lui, que le scénario d'une absence d'accord entre Londres et l'UE dans les négociations sur le Brexit est plus probable que jamais. Autant dire qu'on a du mal à imaginer comment le Conseil européen spécial prévu aujourd'hui pourrait déboucher sur autre chose qu'une impasse, à moins d'une éventuelle issue de secours. Michel Barnier aurait notamment proposé de prolonger d'un an la période de transition consécutive au Brexit, qui pour l'instant court jusqu'à la fin de l'année 2020. Ce qui signifie, le cas échéant, que l'ensemble des règles européennes continuerait donc de s'appliquer au Royaume-Uni durant ce sursis, une manière de donner davantage de temps en somme aux deux parties pour s'accorder sur le traité qui régira leurs futures relations. Il n'empêche qu'à écouter la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, l'heure ne semble pas franchement à la conciliation. Selon elle, les 27 sont allés au bout des concessions envisageables et il appartient désormais à Theresa May de trouver chez elle une majorité pour soutenir le projet d'accord. On l'écoute.
C'est à Theresa May de choisir entre une absence d'accord qui n'est dans l'intérêt de personne et un bon accord qui est sur la table et sur lequel les fondamentaux ne sont pas différents de ceux dont nous avons parlé depuis des mois avec nos interlocuteurs britanniques. La question de savoir quelle majorité elle peut avoir pour cette solution dont elle nous avait dit qu'elle l'assumait, c'est une question de politique intérieure britannique. C'est pas à moi de la poser. Mais il faut qu'il soit clair, en tout cas pour l'ensemble de la classe politique britannique, que cette offre est sur la table, qu'il y a une volonté des 27 d'obtenir un bon accord et que le choix leur revient. Nous, nous sommes allés le plus loin où nous pouvions aller compte tenu de ce qu'est le fonctionnement de l'Union européenne. Ce n'est pas des lignes de négociation qui peuvent reculer parce qu'on aurait gardé des dernières cartes dans notre poche. C'est simplement comment fonctionne l'Union européenne, sur quels principes. Ce ne sont pas des arguments de marchands de tapis. C'est ce sur quoi est fondée l'Union européenne.
Voilà, Nathalie Loiseau, ministre française des Affaires européennes, elle répondait à Quentin Dickinson. Et puis s'agissant de l'Europe et des coulisses des démocraties de chacun de ses États membres, voilà qu'une étude publiée hier par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'Union interparlementaire vient dresser un tableau particulièrement sombre des relations hommes-femmes au sein des différents parlements européens. On y apprend qu'un quart des femmes parlementaires disent avoir été victimes de harcèlement sexuel et 85% de violences psychologiques au cours de leur mandat dans les différentes enceintes législatives donc de l'UE. En Turquie, à chaque jour son rebondissement dans l'enquête sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre dernier. Hier soir, les policiers turcs qui s'apprêtaient à perquisitionner la résidence du consul ont finalement dû renoncer. Pendant ce temps, les indices et les preuves à charge contre le régime saoudien se multiplient. Ainsi par exemple qu'à en croire le New York Times ce matin, l'un des hommes identifiés par les autorités turques comme faisant partie des responsables de la disparition de Khashoggi appartiendrait à l'entourage du prince héritier Mohamed Ben Salman. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans ce contexte de pression croissante sur l'Arabie, mais aussi sur son allié américain, que le secrétaire d'État Mike Pompeo est arrivé en Turquie aujourd'hui après un passage par Riyad la veille. Anne Anlauer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Istanbul. Mike Pompeo a rencontré ce matin le président turc Recep Tayyip Erdogan, puis le chef de la diplomatie. Qu'est-il ressorti de ces échanges ?
Oui, le secrétaire d'État américain s'est entretenu pendant environ une demi-heure avec Recep Tayyip Erdogan. Alors, rien n'a filtré de la rencontre, mais on a noté la présence aux côtés du président turc de son chef des services secrets, Hakan Fidan. Mike Pompeo n'a pas non plus donné de conférence de presse avec son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu, mais ce dernier est revenu devant la presse sur cette rencontre diplomatique et sur plusieurs points de l'enquête. Alors, le chef de la diplomatie turque a qualifié de court, mais utile et productif son entretien avec Mike Pompeo. Il a expliqué que le secrétaire d'État américain avait transmis à ses interlocuteurs turcs le résultat de ses échanges mardi avec les dirigeants saoudiens. Mevlüt Çavuşoğlu a également commenté l'annulation de la fouille à la résidence du consulat saoudien hier soir. Les Saoudiens auraient refusé, selon lui, la perquisition au motif que la famille du consul, qui a quitté la Turquie en fin d'après-midi hier, se trouvait encore sur place à ce moment-là. Le ministre des Affaires étrangères a toutefois assuré que cette fouille aurait lieu aujourd'hui. Enfin, le ministre a refusé de commenter les dernières allégations publiées ce matin dans la presse, notamment celle du quotidien pro-gouvernemental Yeni Şafak, qui affirme avoir mis la main sur un enregistrement audio prouvant l'assassinat de Jamal Khashoggi. Selon le récit du quotidien, qu'il faut toutefois prendre avec des pincettes, le journaliste aurait été torturé et décapité au consulat par des agents saoudiens en présence du consul.
Merci Anne Anlauer en direct d'Istanbul. C'était il y a un an, Daesh était chassé de Raqqa à l'est de la Syrie. Abandonné par la communauté internationale, l'ancien bastion de l'organisation État islamique peine désormais à se reconstruire. Il faut dire que les habitants sont aujourd'hui de retour dans une ville piégée, notamment par les mines disséminées. Les précisions de Marwaman.
Un an après la libération de Raqqa, l'heure n'est toujours pas à la reconstruction. Donatella Rovera de l'ONG Amnesty International, de retour de l'ancien fief de Daesh.
Il n'y a pas de reconstruction. Ce qu'il y a, il y a eu un peu de décombres qui ont été enlevés. Sinon, pour le reste, la ville est en ruine, tout comme elle l'était il y a une année.
Des ruines, des gravats que des bulldozers déblaient à longueur de journée dans une ville qui a vu le retour d'une partie de ses habitants, au moins 140 000 livrés à eux-mêmes.
La ville est beaucoup plus vivante qu'elle était il y a 6 ou 7 mois. Cependant, ces résidents, ils habitent dans les décombres, dans des maisons qui sont à moitié détruites. Voilà aujourd'hui l'atmosphère dans la ville.
Une atmosphère où la mort ne cesse de rôder, causée par les mines laissées il y a un an par les djihadistes. Nadim Houri de Human Rights Watch, qui était également à Raqqa il y a quelques jours.
Les civils continuent à mourir des mines antipersonnelles que Daesh avait laissées derrière. Les services hospitaliers et le soutien aux victimes des mines, dont beaucoup sont des enfants, restent quasi inexistants.
Et dans ce chaos pèse une autre menace, celle des cellules dormantes de Daesh qui se sont constituées dans plusieurs quartiers de la ville.
Voilà 7 mois maintenant que la frontière entre Israël et Gaza est le théâtre de vives tensions et cette nuit, des avions de l'armée israélienne ont frappé des cibles dans la bande de Gaza après qu'une roquette tirée par des militants palestiniens a atteint une maison dans la ville israélienne de Beersheba. Quand la liberté d'expression et la liberté artistique apparaissent de plus en plus souvent comme des crimes aux yeux du Kremlin, tandis que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans, croupit toujours dans une geôle du Grand Nord de la Russie, le metteur en scène Kirill Serebrennikov, assigné à résidence depuis un an à Moscou, voit s'ouvrir aujourd'hui son procès dans la capitale. L'enfant terrible du théâtre russe est accusé de détournement de fonds de subventions publiques, des faits que l'intéressé a toujours nié et qui sont apparu curieusement au moment où certaines de ses réalisations étaient jugées subversives par les autorités. C'est une correspondance à Moscou signée Claude Brouillot.
Kirill Serebrennikov a-t-il participé, oui ou non, à la surfacturation de devis pour des spectacles qu'il dirigeait? C'est à cette question que doit répondre un tribunal moscovite à compter d'aujourd'hui, un procès en forme de théâtre de l'absurde pour le metteur en scène déjà primé à Cannes, qui a toujours nié les faits. Sans manquer d'ailleurs de s'étonner, avant ses 14 mois d'assignation à résidence, que cette procédure était née à un moment particulier pour lui, dans le prolongement précisément d'une polémique sur l'un de ses spectacle qui mettait en lumière la personnalité de Nouraïev, l'icône homosexuelle dissidente, un ballet commandé par le Bolchoï à Serebrennikov, finalement retouché par un autre metteur en scène et jugé alors plus présentable par les autorités. Malgré un large soutien du monde des arts en Russie et à l'étranger, Serebrennikov n'a pas été autorisé par le Kremlin à se rendre à Cannes en mai dernier pour présenter Lieto, son dernier film. Figure de référence pour son génie créateur qui traite sans concession dans la Russie de Vladimir Poutine tout à la fois de religion, de sexe ou encore de politique, Serebrennikov aurait donc pu participer au gonflement de quelques factures pour mieux profiter de l'argent public et se mettre ainsi à la faute, se privant de son art, ou bien commençait-il tout simplement à devenir trop dérangeant uniquement à travers ses œuvres, lui qui prenait bien soin d'éviter tout choc frontal avec les autorités, jusqu'à ce commentaire issu de la censure de son ballet sur Nouraïev, « Les pouvoirs passent, l'art lui restera ».
La consommation de cannabis provoquerait-elle des sensations élévatrices, y compris sur les cordons de la bourse, en légalisant à partir d'aujourd'hui la vente et la consommation de marijuana? Le Canada devient non seulement le deuxième état de la planète à autoriser ainsi le cannabis dit récréatif, mais le gouvernement de Justin Trudeau réalise également une réforme attendue tant par les consommateurs que par les marchés boursiers, visiblement euphoriques. Les sociétés du secteur affichent d'ores et déjà des capitalisations records. Pour autant, si cette légalisation s'annonce florissante pour les investisseurs privés, s'agissant cette fois-ci des consommateurs, l'euphorie risque de s'accompagner d'une légère perte de contrôle. La loi varie en effet non seulement d'une province à l'autre, mais parfois aussi d'un arrondissement à l'autre au sein d'une même agglomération, de quoi embrouiller légèrement les esprits. C'est un reportage de Loïc Loury.
Son dispensaire de cannabis à Ottawa avait pignon sur rue. Avec la nouvelle loi, Nora devra désormais obtenir une licence. D'ici là, ses clients peuvent se ravitailler sur un site internet mis en place par les autorités. Pas l'idéal pour ceux qui veulent rester discrets ou qui n'ont tout simplement pas d'adresse.
Ils ne veulent pas acheter en ligne. Ils ne veulent pas utiliser leur carte bleue pour ça. Ils vont retourner dans la rue, beaucoup nous le disent.
Et ce n'est qu'un problème parmi d'autres. À chaque province, ses règles et parfois au sein même d'une seule ville, comme ici à Montréal. Hans Vargas est à la tête de PharmaCan, une clinique thérapeutique.
Mettons, si toi tu vas d'ici à 4 blocs dans un autre arrondissement, où ce que le maire de cet arrondissement, il permet pas de fumer du cannabis dans la rue, mais le maire de Montréal, il dit oui, et alors le maire de Westmount, il dit non, ça change. Alors, ça va être vraiment compliqué. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail pour la police à faire.
L'âge légal de consommation, par ailleurs, est fixé à 19 ans dans l'Ontario, mais à 18 au Québec, où de prochaines élections pourraient faire passer la limite à 21. Situation cocasse en perspective pour ceux qui habitent à cheval entre les deux provinces. Sean Mack est un activiste de longue date.
Ça fait confuser au public. Le gouvernement fédéral, ils disent, tout le monde y a le droit. Le gouvernement provincial, ils disent « Non, tu n'as pas le droit ». Il va y avoir des gens qui vont se faire arrêter pour quelque chose que la province, il dit non, mais le fédéral, il dit oui.
Et ce micmac, pourtant, a bien un sens. C'est ce qu'explique le criminologue et avocat Eugène Oscapella.
Ça va nous donner l'occasion de voir lesquels systèmes sont les meilleurs, d'expérimenter un peu avec le système de gérer le cannabis. Je crois qu'il y a des autres pays qui regardent très, très attentivement le Canada. Nous sommes le premier pays du G7 à légaliser le cannabis, on a besoin de quelqu'un pour mener la voie.
Le Canada, premier vrai leader de ce nouveau marché, il faudra d'abord s'occuper des pénuries de cannabis légales déjà prévues dans les prochains jours.
Un reportage signé Loïc Loury. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Ciel variable sur une petite moitié ouest. De faibles pluies concerneront également le sud du Languedoc. Partout ailleurs, temps sec et ensoleillé. Les températures entre 15 et 25 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.